Voilà.
Merci beaucoup à ce temps, à cette équipe de louanges. Le culte de l'enfance, les enfants, vous pouvez descendre maintenant, mais l'équipe du Pré-4 reste avec nous pour écouter le message. Et Christophe, notre pasteur stagiaire, oh, pas pasteur jeunesse, pardon, excuse-moi Christophe, on te l'a pas fait celle-ci, hein. Non, notre cher pasteur jeunesse, Christophe va introduire notre orateur de ce matin.
D'accord. Donc, il s'appelle Emmanuel Schmitt. Vous l'avez déjà entendu pour certains d'entre vous à quelques occasions ici même à Villars. Donc, Emmanuel, il est coordinateur roman, jeunesse roman dans la Fédération d'Église de laquelle on fait partie, la FRE, Fédération romande d'Église évangélique. Et puis, il a beaucoup, c'est un gars de terrain qui a beaucoup d'expérience, entre autres africaine. Il a plein d'histoires à nous raconter passionnantes. Mais j'espère qu'il ne nous en racontera quand même pas trop, parce qu'autrement, il risque d'exploser le temps. Voilà, Emmanuel, c'est quelqu'un de terrain, c'est quelqu'un qui a un cœur entier pour Dieu, c'est un quelqu'un de vision, c'est une personne de passion aussi, qui aime partager sa passion. C'est quelqu'un qui est très entier. Donc voilà, des fois, ça peut froisser certaines sensibilités plus nuancées, mais moi, j'apprécie son côté entier. Et puis, c'est quelqu'un qui se relève toujours, en tout cas jusqu'à maintenant, qui a vécu beaucoup d'expériences, et il s'est relevé, et il continue, et en tout cas, je l'apprécie beaucoup. Donc, à toi la parole, sois béni. Merci.
C'est toujours difficile quand on nous présente, parce qu'on se dit, oh là là, les gens s'attendent à je ne sais pas quoi. Merci Christophe, c'était sympa. Le thème de ce matin, c'est « Porter du fruit », puisque vous êtes dans une série dans les cultes jeunesse, « Porter du fruit ». Alors, j'ai appris que la dernière fois, vous aviez eu un cours de jardinage ou quelque chose comme ça, hein, sur porter du fruit. Alors rassurez-vous, je ne vous aurai pas un deuxième cours de jardinage parce que mes talents en matière de jardinage ne sont pas extraordinaires. Hein. Une des seules fois où j'ai dû en faire, c'était à l'école biblique, et puis on m'avait demandé de désherber un parterre de fleurs, et puis je ne savais pas ce qu'étaient les mauvaises herbes, des plantes, des fleurs, donc j'ai arraché à peu près tout. Donc, ils m'ont confié pour le reste de passer la tondeuse. Il y avait un grand terrain d'herbe, donc je passais la tondeuse. C'était tout ce qu'on m'avait confié en matière de jardinage. Vous voyez, parce que je n'ai pas les doigts verts. OK, donc ce ne sera pas sur du jardinage. Avant ça, j'ai une petite introduction. Le Seigneur me donnait cette pensée juste pour vous. C'est un peu rude, donc bon, voilà, il a dit que j'étais direct. Donc, ça a préparé le terrain. Mais j'ai l'impression que le Seigneur veut nous dire, peut-être à certains en particulier dans Hébreux 4, que parfois, écouter la parole de Dieu ne sert à rien du tout. Ça vous choque, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi ? Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Et j'ai l'impression que en préambule, le Seigneur nous dit, peut-être, on entend beaucoup de choses de sa part, dimanche après dimanche, jour après jour en lisant la parole, et puis certains se disent peut-être, ça sert à quoi? Ça ne change pas grand-chose dans ma vie. En fin de compte, est-ce que ça marche? Est-ce que réellement c'est efficace? Ben, le Seigneur nous donne peut-être une réponse. Est-ce que dans ton cœur, il y a le terrain de foi, c'est-à-dire la mise en pratique de ce que tu entends, pour que ça devienne quelque chose qui porte du fruit? Comme vous l'avez déjà entendu et on va encore l'entendre. Donc, la parole de Dieu ne suffit pas. Il faut encore qu'elle trouve dans nos cœurs un terrain favorable. Voilà, c'était juste une petite intro. Dieu a une idée fixe, vous saviez ça? Que Dieu a parfois des idées comme ça, un peu butées, coincées, qu'on ne peut pas changer. C'est assez intéressant si on regarde dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, on se rend compte que tout au début, Dieu a déjà la notion de jardinage et, entre autres, de fruits. Et Dieu crée, et ce qu'il crée porte en lui la capacité de produire de nouveau du fruit. Dieu ne crée pas des choses stériles. Dieu crée des choses qui peuvent porter du fruit. Depuis le début du projet de Dieu pour la terre, pour l'humanité, il y a cette notion de produire du fruit. Pas simplement de recevoir, d'être consommateur, comme malheureusement la société d'aujourd'hui, qui est ultra dans la consommation, mais au contraire, justement, porter du fruit. On est appelé à à ce que ça génère, que de toi, il sorte quelque chose. Et on trouve ça dans le premier verset et on retrouve ça dans le dernier chapitre de la Bible, de nouveau dans l'Apocalypse, de nouveau un arbre. Tiens, décidément, les idées sont vraiment fixes. Et un arbre qui porte du fruit. Et comme on le verra plus tard, chose intéressante, si le premier arbre avait des saisons, le deuxième a vraiment des saisons très courtes. Il est appelé à porter beaucoup de fruits. Et du fruit qui soit en bénédiction, du fruit qui apporte un mieux-être à la société, aux gens qui l'entourent, puisqu'il apporte la guérison, puisqu'il guérit les nations, et ce fruit arrive 12 fois par année. Ça, c'est les idées de Dieu. Donc on se rend compte que Dieu veut que l'on aille du fruit. C'est une pensée de Dieu pour nous. Tu n'es pas sur la terre pour toi-même. On va le voir un peu plus loin. Tu n'es pas là simplement pour te satisfaire, pour réussir une carrière professionnelle, pour réussir une vie familiale et autres. C'est déjà une forme de fruit, si tu as des enfants et autres, c'est déjà la première chose. Mais tu es appelé à plus, tu es appelé à devenir source de bénédiction. Tout ça, c'est bien connu. Hein. On connaît bien l'histoire du fruit et tas de choses. Hein. Donc, mais, j'ai mis le mais. Tiens, j'y avais déjà pensé un petit peu à l'intro que je vous ai fait tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on en fait? Là, un des points importants dans porter du fruit, je vais en citer quelques-uns là maintenant, puis après on s'attachera à un en particulier, peut-être deux. Mais le fruit, on connaît tout ça. Si tu n'es pas attaché au cep, si tu n'es pas dépendant de la sève de Dieu dans la vigne, hein, dans Jean 15, vous pourrez relire tous ces passages, je vais vous en lire quelques-uns. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Dieu le recoupe. Hein. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il en porte encore plus. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. L'attachement à Dieu, on sait tout ce rapport et cette imagerie que Dieu a fait dans la Bible entre la vigne, le vigneron et nous et la foi, être scellé en Dieu. Est-ce que réellement tu l'es? Est-ce que réellement tu vis scellé? Une autre image bien connue, est-ce que tu as du fruit ou pas? Je viens de le citer dans Jean 15. Si tu n'en as pas, on coupe, on retranche. C'est direct. C'est vrai, Christophe dit, je suis direct. C'est qu'il me semble parfois que Dieu l'est largement plus que moi. Tu n'as pas de fruit, coupe. Loin. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est pas moi qui le dis. Dieu est sec par moments. Dieu est direct. Et il y a des causes à effet comme ça. Hein. La vigne dans Jean 15, 2, le figuier dans Luc. La même histoire, hein. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et un peu plus loin, il donne encore une chance, le vigneron insiste et il dit, peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Il y a une espèce de cause à effet, hein. Et Luc 6, 43 est encore plus clair dans ce domaine-là. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. Il y a quelque chose d'assez clair. Hein. Si tu es une vigne, tu ne portes pas des figues. Si tu es un figuier, tu ne portes pas des pommes, et ainsi de suite. Et tu ne peux pas porter du mauvais fruit si tu es un bon arbre. Examine-toi toi-même. Quel fruit portes-tu? Est-ce que je porte du bon fruit? Est-ce que j'en porte déjà? Et si j'en porte pas, il y a une certaine marge de patience. Là, pour le figuier, c'était 3 ans. Hein. Je ne sais pas, pour nous, on est dans l'attente de la grâce. Hein. Ça nous laisse plus de marge, plus de mou. Heureusement, merci Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce temps de la grâce? Est-ce qu'on en fait quelque chose pour devenir meilleur, pour avoir du fruit de qualité, pour porter ce que Dieu attend? Ou est-ce que simplement j'use la patience de Dieu juste pour faire ce que j'ai envie? On connaît bien ces choses, mais bonne terre, mauvaise terre, Marc 4, toute la parabole de la terre ou de la mauvaise terre. Si elle tombe dans de la mauvaise terre, elle ne rapporte pas. Si elle tombe dans de la bonne terre, elle rapporte 30, 60, 100. C'est énorme, 100. Hein. Les paysans qui savent ce que c'est, hein. 100 grains pour un grain, c'est vraiment des récoltes extraordinaire. Je ne sais pas si ça arrive souvent. Donc, c'est quelque chose de fou. Donc, on est appelé à porter. Et pour porter, il y a une bonne terre ou une moins bonne terre. Et là, de nouveau, cause à effet. Hein. Là, Jérémie 17 nous dit ceci. Que l'homme est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. De nouveau, ce fameux fruit. Tu es confiant en Dieu ou pas? Tu vas porter ou non du fruit. Tu mets ton espérance en Dieu ou tu ne la mets pas? De toutes ces choses vont produire un résultat. Ce qu'on constate là, c'est que toutes ces attitudes, l'attachement à Dieu, le fait d'être dans une bonne terre, d'être malléable, et ainsi de suite, vous avez déjà entendu des dizaines et des dizaines de messages sur tous ces sujets, vont produire quelque chose. Il y a une suite logique, une cause à effet, qui fait que quand tu vis dans cette dynamique-là, eh bien, tu vas porter du fruit. Et peut-être le centre, la chose la plus fondamentale, avec la notion de fruit, c'est Jean 12, 24, si le grain, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La traduction littérale dit « Amen, Amen, je vous le dis », comme pour sceller ces choses. Jésus dit « Amen, Amen, je te le dis, si tu veux vivre, tu ne porteras pas de fruits. Si tu acceptes de mourir, tu vas porter du fruit. » On pourrait dire que le sommet du discours ou de la notion de porter du fruit, c'est le non-égoïsme. C'est l'opposé de celui qui est centré sur lui-même, de celui qui cherche toutes les choses pour lui-même, qui ne vit que pour lui. C'est justement l'opposé de ça. C'est devenir semblable à Dieu qui, lui, de Dieu qu'il était, s'est fait homme, pour nous sauver, qui est descendu, qui s'est dépouillé, qui a accepté de mourir littéralement et physiquement pour que le fruit de son œuvre ait encore des répercussions des milliers d'années plus tard et pour l'éternité. Vivre, porter du fruit, c'est vivre en fonction de l'autre. Un homme, une femme, n'existe réellement et n'a de potentialité de porter du fruit que l'un vis-à-vis de l'autre. Vous le connaissez bien, hein? Le fruit naturel de l'accouplement, c'est un enfant, et ce n'est pas possible tout seul. Ce n'est pas possible. Il faut un vis-à-vis. Sinon, c'est la stérilité. Celui qui reste seul est stérile. Les arbres ont des semences parfois... Enfin, les arbres, non, ils doivent quand même être... il doit y avoir je ne sais pas quoi qui vient dessus, des petites fleurs et tout ça. Mais il y a quelques animaux qui, eux, ont en eux-mêmes la capacité de se reproduire sans accouplement, sans fécondation autre qu'eux-mêmes. Mais pas nous. Pas nous. Être humain, la manière dont Dieu nous a créés à son image, nécessite un vis-à-vis. Dieu est trinitaire, il a ce vis-à-vis dans la Trinité. Et ce vis-à-vis, cette relation qu'ils ont entre eux, produit un fruit incroyable d'amour, de paix pour l'humanité et d'espérance. Nous avons besoin de cela. Tu ne peux pas porter du fruit tout seul. Tu ne peux pas. Si tu veux porter du fruit, tu as besoin de l'autre. Tu as besoin d'être fécondé par l'autre. Tu as besoin de féconder l'autre. Tu as besoin que la vie qui est en toi s'accouple à la vie de l'autre pour qu'elle produise du fruit. Tu as besoin de l'autre. On est dans ce monde. On est là pour les autres aussi. Être chrétien, c'est vivre justement la rencontre du Christ de manière fructueuse. C'est-à-dire que ce que Christ donne va produire. Et ce comparatif entre la Genèse et l'Apocalypse que j'ai déjà fait tout à l'heure, on voit que l'arbre a ce qu'il faut. C'est prévu pour porter du fruit et on voit qu'il y a une volonté de croissance et de multiplication. Dieu ne s'arrête pas simplement à un petit peu au départ, il veut beaucoup à la fin. Parce qu'il y a une rencontre, parce qu'il y a l'autre. Tu rencontres Christ dans ta vie, il vient féconder ta vie pour l'autre. Mais l'autre, il faut le regarder. L'autre, il faut aller le rencontrer. Comment veux-tu porter du fruit si tu vers l'autre et féconder l'autre si tu ne lui apportes pas cette semence de vie? Si tu ne deviens pas porteur de cette semence de Christ qui est en toi, qui va aller fertiliser l'autre. Il y a des tas de gens là autour qui attendent qu'une chose, c'est d'être fertilisé. Et on passe à côté, les yeux fermés. On ne les fertilise pas parce qu'ils nous font peur, parce que tout simplement on les ignore, parce que c'est culturel, parce qu'on n'a pas l'habitude de regarder les autres, parce que dans ma famille on m'a toujours dit de ne pas parler aux étrangers, parce qu'on m'a dit de me méfier ou quoi que ce soit, parce que, il fait qu'on en est là, peu importe les parce que, peu importe les pourquoi, on en est là aujourd'hui, mais Dieu veut que ça change. C'est ça qui est important. C'est pas ce que je suis qui est important, c'est ce que je serai. Je suis en devenir. Je suis en devenir. Je ne suis pas fini. Je suis le résultat de mon passé, évidemment, mais ce résultat peut changer. Ce que je suis, ce n'est pas figé. Dieu transforme toutes choses. Dieu fait une création nouvelle. Et il y a quelque chose, une dynamique nouvelle. Et on est appelé à aller vers l'autre, à aller dans une dynamique de relation pour porter du fruit. Et ça va aussi te féconder. Waouh. Mais oui, les gens du monde peuvent nous féconder, et pas que de mauvaises choses. Il y a du bon dans l'humanité. Dieu est bon avec les bons et les méchants. Dieu donne à la naissance la quasi-même potentialité, pas tout à fait, mais quand même, on a tout être humain une potentialité incroyable. Dieu est généreux, Dieu est bon continuellement, et nous avons du bon à recevoir des autres. Déjà rien que d'oser les regarder et d'être prêt à recevoir, ça prépare leur cœur à recevoir aussi ce que nous, on a à leur donner. Est-ce que nous allons à leur rencontre? Ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, le thème central d'aujourd'hui, même si le temps passe vite, c'est que Dieu veut qu'on porte du fruit, mais pas seulement un peu. Il y a une volonté de Dieu de croissance et de multiplication. Vous avez peut-être vu le film 13 à la douzaine, là, une immense famille américaine, une belle multiplication. Là, bon, c'est du cinéma, on est d'accord, mais enfin, il y a quand même des gens qui en ont 12, hein, ou 13. Nous, on en a 4, on s'est arrêté là, mais on a multiplié. Hein. Parce que pour les mathématiciens, 2, c'est juste repeuplé. C'est juste, on ne multiplie rien du tout. Il n'y a pas de croissance à 2. Hein. C'est depuis 3 que c'est la croissance. Bon, je plaisante là-dessus. Mais vous comprenez bien que spirituellement, le Seigneur nous appelle à ça. Dans Genèse 2, 28, Dieu bénit Adam et Ève et il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Alors bien sûr qu'ils n'étaient pas très nombreux au moment, la terre était grande et il fallait se donner à cœur joie pour la remplir. Aujourd'hui, ça va, il y a du monde. Hein. C'est un peu moins grave si on multiplie moins. Par contre, spirituellement, tu es appelé à multiplier. Spirituellement, tu es appelé à amener de la croissance dans ta propre vie et dans la vie des autres. Tu es appelé à amener tout ça, à amener plus. Il y a un mouvement d'augmentation de une saison par année à 12 saisons, c'est-à-dire continuellement. Et si vous regardez Ézéchiel, la rivière, le fleuve qui sort du trône de Dieu et qui grandit, qui croît, au sens contraire, c'est Ézéchiel 47, merci. Ézéchiel 47, vous pouvez relire ce passage où c'est vraiment le sens opposé. Dieu inverse les choses. Tout est inversé de son trône par un filet d'eau et plus on s'avance, plus ça grandit et plus ça apporte la vie. Il n'y a rien au départ, il y a des poissons plus loin. Il n'y a rien au départ, il y a des immenses arbres qui portent du fruit pour la guérison des nations et on le retrouve dans Apocalypse 22. Ce même fleuve et ces mêmes arbres qui apportent la bénédiction, qui apportent la croissance. Tu es appelé, je suis appelé à croître et à multiplier. Là, je ne veux plus avancer. On va faire autrement. Voilà. Croissance et multiplication, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir plus de prières, plus de réunions de prières, plus d'intercessions, mais beaucoup plus d'exaucement. Ça paraît bidon, hein? Mais franchement, ça ne l'est pas. Combien de réunions de prières ont servi à peu près à rien, si vous êtes honnête? Allez, on va toujours dire, nous ne maîtrisons pas tout, et on a des grandes excuses théologiques pour se justifier et continuer à faire ce qu'on a toujours fait, pour se donner bonne conscience à le faire. Mais franchement, combien de prières sans exaucement? Combien? Ce que le Seigneur aimerait, c'est qu'il y ait des exaucements. Jésus dit, Père, je te demande ceci devant eux, pas pour moi, mais je le dis pour eux, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Waouh, entre lui et nous, il y a une sacrée différence, on est d'accord. On est en chemin. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser ou me culpabiliser, mais on est là pour s'encourager, on est en devenir. Mais la croissance dans ta vie de prière, ce n'est pas pris plus, c'est prie mieux. Sois exaucé dans tes prières. Entre dans le projet de Dieu. Entre dans ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans ta vie. Et quand tu entres dans ce projet de Dieu, alors tout d'un coup, les choses prennent vie. Parce que c'est le projet de Dieu. Parce qu'il y a la vie, il y a la semence de Dieu. Et tout d'un coup, c'est exaucé. Parce que tu es dans ce que lui est en train de faire. Pas forcément beaucoup plus de choses comme ça, mais plus d'exaucement. Pas plus de réunions. On en fait bien assez, franchement. Ouais, il en faut quand même un petit peu, puisque on a besoin d'être ensemble. Hein. C'est une bonne chose. Mais franchement, est-ce qu'il y a de la maturité dans la vie spirituelle des chrétiens? Dans ta vie, est-ce que ta vie est mature? Ou dès que ça secoue un tout petit peu, tu pleures, tu t'effondres et tu n'es pas solide du tout. Au moins une petite brise, tu es abattu. Où est-ce qu'il y a la maturité de Dieu qui fait que tu tiens malgré les difficultés, malgré les obstacles, tu te relèves, tu continues. Est-ce qu'il y a la maturité de Dieu, la mise en pratique, comme je l'ai dit au début, de ce que tu entends? Ou est-ce que simplement on multiplie les réunions pour entendre et croire que parce qu'on a entendu, ça va produire du fruit, ça va multiplier? Ce n'est pas plus de choses dans ma tête, c'est plus de choses dans mon cœur qui transforme ma manière de vivre, qui va faire porter du fruit. Vous savez, moi je connaissais un gars qui était pasteur à l'époque, ministère un peu prophétique comme ça, et puis je l'ai connu des années plus tard, il était comptable dans une institution sociale, moi je faisais un stage, et puis le gars était encore un peu pas bien quoi. Et il a fait un gros burn-out avec dépression et même presque délire mystique. Enfin, la tête allait plus bien malheureusement. Et il a vraiment dû être soigné, puis tout arrêté. Puis moi, je l'ai connu pas à la fin de sa vie, mais puisqu'il vit encore. Mais je veux dire, à la fin de sa carrière professionnelle, comptable et autres. Il me disait, tu vois, j'entendais toujours à l'école biblique dire, les pasteurs qui venaient nous dire, si je pouvais, je prierais plus. Si je pouvais recommencer ma vie, qu'est-ce que je prierais plus? Puis lui, il s'est dit, ben, je vais le faire. Et il priait 3-4 heures tous les jours, pour écouter Dieu. Ça l'a amené à péter les plombs. Ce n'est pas toujours plus de temps qui est nécessaire, mais c'est plus de qualité. Et surtout, plus de mise en pratique dans une vie mature. Je suis effaré. Et je vous dis ça pas pour vous, bien sûr, parce que Villars, c'est une exception. Mais je suis effaré. Je sillonne la Romandie constamment pour la frais, pour la jeunesse. Et puis quand on touche à la jeunesse, on touche à toute l'Église. Quel manque de maturité. Les conflits à la noix de coco. Les guerres pour des questions de sous. Alors qu'on se dit tous, enfants de Christ, délivrés de maman, délivrés de tout ce qu'on veut. Et qu'on se bat. On se bouffe le nez pour rien, pour des stupidités, parce qu'on a pris ma chaise. Mais c'est vrai, il y a des endroits où on vous fait changer de place parce que vous avez pris la chaise de quelqu'un. C'était pourtant pas marqué, mais ça arrive, c'est encore aujourd'hui. Des trucs incroyables, quoi. Mais où est la maturité? Où est l'œuvre de Dieu dans nos vies qui transforme et qui porte un bon fruit, qui se voit? Elle est où? C'est effarant par moments. Des gens que ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas raté un culte, pas une réunion de prière, mais attention, vous allez juste chatouiller à l'endroit où il ne faut pas, et ça explose. Mais, waouh, tout vous pète à la figure. Mais Seigneur, où est le fruit de Galates 5, 22? Il devrait quand même produire en 30 ans, là. Ou bien, dans l'Ancien Testament, là, enfin non, dans la, c'est le Nouveau, le figuier c'est 3 ans, alors en 30 ans. Hein? Franchement, je répète, je suis pas là pour, je ne juge pas, je culpabilise pas, mais je me pose des questions. Et ça m'interpelle sur moi-même, dans mes faiblesses, que je traîne depuis 20 ans, que je demande à Dieu grâce depuis tant d'années, et j'ai tant de luttes encore. Seigneur, ta maturité. Seigneur, mise en pratique, c'est autre chose. Pas plus de réunions, pas plus d'activités, mais beaucoup plus de résultats dans ta vie. Laisse-toi transformer par l'œuvre de Dieu. Pas plus de travail, mais plus de résultats. Et je vais simplement conclure en disant, c'est possible. Pourquoi ? parce que Jésus en est la source. Jean 15, 16 nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Et je rappelle que c'est Jean 15 où il parle de demeurer attaché au cep, où il parle qu'il retranche ou qu'il émonde. C'est ce même chapitre. Et Jésus dit, je t'ai choisi ce matin. Courage, mon frère, ma sœur, jeune, pas jeune, âgé, peu importe, avec des monstres luttes ou des petites luttes, peu importe, sache une chose, Dieu t'a choisi, tu n'es pas là aujourd'hui parce que tu l'as voulu, quel que soit ton âge. Peut-être pour les plus jeunes, du vivement qu'il est fini, qu'on puisse se barrer, que le culte soit fini et qu'on passe à autre chose. Sache une chose, ce n'est pas toi qui as voulu venir ici, c'est tes parents peut-être qui t'ont forcé, mais au-delà de ça, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi, chacun ici. Dieu t'a choisi et lui t'a établi. Ça veut dire que c'est lui qui t'installe dans ce pourquoi il te veut. C'est un autre sujet. Mais entre autres, il t'a établi pour que tu ailles, pour que vous alliez. Dieu fait sa part, à toi de faire la tienne. On a parlé du vis-à-vis de l'autre. Si tu ne vas pas, ça ne va pas bouger. Comment entendront-ils si personne ne leur dit? Comment quelqu'un ira leur dire si personne n'est envoyé? Au loin, au près. Parfois, des gens disent, non, mais moi, je témoigne par mes actes. Je sais très bien, continue. Mais de temps en temps, ouvre la bouche. Hein. Quand même, ça aide. Ça aide. Il y a des périodes où l'évangile pouvait être une évidence. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Hein. Vous l'avez remarqué. On est dans une société spirituelle, religieuse à l'excès. Tout le monde est tolérant. Si vous dites que vous êtes chrétien, ça choque à peu près plus personne. Dire, ben, tu sais bien, tu as ton Dieu, j'ai le mien, tu as ta manière de comprendre, j'ai la mienne. Donc, si on ne parle pas, si on n'explicite pas ce que Christ est dans notre vie, les gens, ben voilà, écoute, tu as ouvert tes chakras, tu es branché, c'est bon, ça joue, tu as le bon tuyau, quoi. Mais c'est comme ça, c'est la réalité. Les gens ne sont pas gênés. Vous allez même parler de guérison physique ou autre. Oui, ils le font aussi, hein, faut pas croire. Ils en font parfois même plus que nous. Donc, on ne les impressionne pas avec le spirituel. Le monde est spirituel. Alors, parle, ouvre ta bouche. Parce que la parole a une puissance aussi. La parole a une puissance quand elle est en plus accompagnée de ta vie. Donc, tu dois y aller. Tu dois aller pour porter du fruit. Donc, c'est un commandement de Christ. Vas-y, afin que vous portiez du fruit. Et le dernier, et que votre fruit demeure. Que votre fruit demeure, que ce que tu as semé demeure. Franchement, quand à la fin de sa vie, on peut se dire, ce gars-là, cette femme, elle a impacté sa région, elle a impacté sa famille, elle a marqué, quand le temple est plein à l'enterrement de gens qui disent, ça fait un vide dans le village, ça fait un vide dans la société dans laquelle on est, parce que cette personne était une présence, elle apportait la paix, elle apportait la joie. Waouh, le fruit demeure. Le fruit demeure. Moi, je commence à devenir vieux quand même. Puis, sans penser à tout ça, mais je me dis, il y a deux choses que j'aimerais, c'est que le Seigneur me dise, viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai des grandes, ça serait les plus belles paroles que je pourrais entendre arriver là-haut. Et puis si sur la pierre tombale, on dit que ça manque un petit peu que je ne sois pas là, ça ne me gêne pas non plus. Hein. Si quelque part on peut se dire qu'on a marqué, on a laissé une trace dans la vie des hommes, dans son passage sur terre, à laisser une trace, franchement c'est sympa. Et ce n'est pas seulement sympa au niveau humain, mais c'est le projet de Dieu qu'on porte du fruit, qu'on en porte beaucoup et que ce fruit demeure. Prions. Seigneur, merci parce que ce matin tu nous interpelles quant à porter du fruit davantage, qu'il y ait plus de croissance, qu'il y ait plus de fruits, qu'il y ait plus de résultats dans nos activités. Seigneur, tu nous interpelles ce matin quant à la qualité de notre vie spirituelle et du fruit qu'on produit. Seigneur, donne-nous de ne pas augmenter les quantités seulement, mais surtout la qualité. Seigneur, fais de nous des hommes, des femmes à la stature de Christ, à la stature d'homme fait. Que tu n'aies pas à dire comme Paul qu'on est des bébés qui restons au lait alors qu'on devrait être au steak. Seigneur, fais de nous des hommes, des femmes matures. Que ces jeunes qui sont là, très vite, deviennent des hommes et des femmes matures. Il n'y a pas besoin d'être vieux pour être mature en toi. Des jeunes déjà peuvent être matures. Seigneur, tu l'as montré tout au long de ta parole. Fais de nous de ces personnes qui impactent la société qui porte du fruit à ta gloire et que ça, ce fruit demeure. Et merci, parce que c'est toi qui nous as choisis et qui nous as établis. Et tu es le garant du fait que tu donnes ce que tu ordonnes. Merci Jésus. Amen.